19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, toujours en live en ce début de semaine. Nous sommes le lundi 22 mars 2021 et dans cette émission, on reviendra en ce lundi soir sur Lyon qui n'a pas existé face au grand, à l'ogre du Paris Saint, l'ogre parisien justement, la bande à Mauricio Pochettino. Nous recevons dans cette émission pour la première fois, eh oui, Émilie Ross, l'influenceuse qui parlera avec nous de football et aussi du foot avec les femmes sur cette planète-là, justement, on verra. On reviendra aussi sur le documentaire paru hier, passé sur l'antenne de Canal+. Avec Marie Portolano, à qui nous passons aussi le bonsoir, et tout ce collectif de journalistes sportives. Nous aborderons le cas des Français en Liga. Eh oui, dans ce championnat espagnol, Neymar avec les Colchoneros de l'Atlético de Madrid, le Barcelone d'Antoine Griezmann ou encore le Real Madrid d'un certain Karim Benzema. On parlera rapidement, mais il faut parler de ski. Eh oui, sport de glisse avec Pinturo sur le toit du monde. La France qui renverse avec l'Ovalie le pays de Galles en 5 minutes. Et on continuera aussi notre tour d'Europe avec la vieille dame italienne, la Juventus de Turin, qui continue son naufrage face à Benevento. Vous restez justement avec nous, toujours connectés avec les réseaux sociaux, notamment Farid Rouas, notre community manager, est là à dégainer l'info sportive sur la sphère qui est Twitter, mais aussi le numéro du standard qu'on rappelle, le 01 53 48 3000. C'est parti, go Time Sport.
Time Sport.
Et on aimerait s'attarder ce soir avec toute l'équipe. D'ailleurs, on a le retour de notre consultante Frédéric. Comment ça va, Frédéric?
Ça va et toi, Bilal? Contente d'être de retour parmi vous.
Ça va très très bien. Viknesh est de la partie. Comment ça va, Viknesh?
Salut Bilal, salut tout le monde. Ravi de commencer la semaine.
Louis-Marie, ça va, Louis-Marie?
Ça va, après une petite semaine de vacances, dirons-nous, on est de retour, on est content.
Oui, où Louis-Marie? En Europe, en France, dans le sud?
On sort pas, je suis retourné chez moi, du côté de Toulon. Hein.
On a des consultants qui arrivent à passer des petits week-ends. Ah oui.
Ouais. On a des petites bêtises.
J'arrive même à nourrir les girafes même.
Alors, Achille est avec nous, comment ça va, Achille?
Ça va, bonsoir à tous, bon début de semaine.
Merci Achille. Et Boula, il est avec nous, Boula.
Bonsoir tout le monde. Beaucoup de bonnes choses.
Oui.
Ça va, ça me fait toujours plaisir d'être là.
Eh ben nous aussi, Boula. Et on aimerait s'attarder, avant de parler de Lyon et du Paris Saint-Germain, de Bouguera El Ouafi. En 1928, il devient, comme on le disait en off, le premier athlète africain à conquérir une médaille olympique et a fortiori à être champion olympique en remportant le marathon. Eh oui, le premier. Le marathon des Jeux d'été à Amsterdam. On l'a parfois un peu oublié, c'est ça, ce grand athlète, ce grand monsieur qui est mort en banlieue parisienne, du côté de Saint-Denis.
J'étais impressionné par son parcours, qu'il travaillait chez Renault.
C'est ça.
Et tout d'un coup, je vois la vidéo et je regarde un peu son parcours et je trouve que la Fédération d'athlétisme a récupéré Bouguera pour le préparer à faire les Jeux Olympiques.
Ouais, il est né du côté.
Il a éclaboussé les Jeux Olympiques. Il a gagné d'une façon qui a battu vraiment les tops à l'époque. Et après, ce qui m'a fait plaisir, c'est plus.
Oh, et voilà.
Ce qui m'a fait plaisir, c'est plus Alain Mimoun quand il gagne aussi les.
Bien sûr,
un grand. Gagne les Jeux Olympiques. Il quand même par rapport. Oui, le problème, c'est qu'il a été complètement oublié, Bouguera. Complètement oublié de son succès au niveau. Jamais on en a parlé. Moi, si je ne reçois pas cette vidéo.
Une médaille d'or, en tout cas, aux Jeux Olympiques d'été.
On ne parle jamais de Bouguera, on ne le met pas en avant en 1924.
Ouais.
C'est carrément. Et après, ce qui fait plaisir, c'est qu'humainement, tu as des sportifs qui ont un côté humain, qui n'oublient pas, comme Alain Mimoun qui gagne. Ouais.
Et de rappeler
qu'il ne faut pas oublier Bouguera.
Les aînés,
voilà,
c'est ça.
Voilà.
Il est né du côté de Ouled Djellal, près de Biskra, en Algérie. Hein. Mais c'est vrai, ne pas oublier, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on oubliera aussi la bande à Deschamps, à Zidane, France 98. Ça serait fou quand même. Parce que ce n'est pas rien, une médaille d'or
surtout sur le marathon, c'est une épreuve extraordinaire.
Ça reste assez incroyable.
Et moi, j'avoue que j'ai été séché par cette histoire et par mon inculture sur le coup, parce que je n'en avais jamais entendu parler, je l'avoue fort humblement. Et la réalité, c'est que finalement, c'était un précurseur, cet homme, vu que c'était le premier athlète finalement nord-africain qui a su montrer et un petit peu montrer la voie à tous ces grands champions du demi-fond et du fond qui sont venus d'Afrique du Nord, qui ont finalement après imposé leur domination sur ces épreuves. On a vu les Bikila, tous ces athlètes extraordinaires. Et c'est finalement le premier de la lignée à avoir montré la voie. Donc c'est vrai que c'est intéressant aujourd'hui de s'en rappeler, enfin, ou de le découvrir pour ceux comme, qui, comme moi, ne le connaissaient pas.
Justement, eh ben, on l'a rappelé sur l'antenne de Beurre FM.
Faut pas oublier, parce que nous on en parle, aujourd'hui Beurre FM en parle, mais il y a des gens qui ont une réflexion là-dessus pour que de dédier une rue à...
Ouais.
À cette sportive de haut niveau.
Bien sûr.
Il a aujourd'hui, on parle même pas de lui. Et aujourd'hui, c'est les recherches qui ont été faites pour savoir qu'on a oublié une personne qui était dans la haute sphère de l'athlétisme.
Et ça remonte pas longtemps quand même. Ouais.
C'est ce qui fait
1928.
C'est ce qui fait la richesse de la France avec ouais. Avec le côté des étrangers qui arrivent en France ouais. et qui s'installent et qui arrivent à gagner des titres au nom de la France.
Ouais. Ouais, on le sait bien. On a Yacine aussi qui nous dit c'est El Wafi, c'est ça. Ahmed Bouguera El Wafi, c'est bien ça.
Il connaissait pas Yacine,
ouais. Yacine il connaît bien ouais, Yacine. Ça m'aurait fait plaisir
ouais. qu'il en parle parce
eh
que
ben voilà. Eh ben il nous écoute peut-être ce soir, ne t'inquiète même pas.
Moi c'est pas mon boulot.
Ouais, non, ne t'inquiète même pas. Lui ça c'est son boulot et même je crois même il en a déjà parlé dans ses émissions voire sur son site internet ou même sur un
je l'ai jamais
reportage.
Vu je l'ai jamais vu.
Oh, y a, là c'est Boula qui taquine encore une fois. Et sinon on va s'attarder sur le match d'hier soir opposant Lyon au Paris Saint-Germain.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, et le gardien, le portier Viknesh, Lyonnais Lopez qui accuse le coup, on n'a pas existé pendant 60 minutes. Tu lui réponds quoi à ça?
Je dirais pas qu'il a raison. Il a bien suivi le match, mais après il a pris 4 buts, donc il sait de quoi il parle. Le Paris Saint-Germain a livré une prestation incroyable. Franchement, il fallait qu'il réponde présent, surtout après la défaite de Lille dans l'après-midi. Il savait qu'en gagnant, il pouvait prendre la première place. Et ils l'ont fait, et d'une très belle manière. Les joueurs ont répondu présent, ils ont fait un beau match, ils ont été tous performants. Mbappé doublé, 100 buts en Ligue 1 à 22 ans, c'est pas mal, mine de rien. Avec Moeskin qui n'a pas été très très efficace, mais il a fait un très bon travail pour les autres. Et le très beau coup franc de Di Maria qui est toujours performant. Et les Lyonnais, on ne les a pas vus. C'était là ou jamais pour eux, je pense, parce que Lyon, ces temps-ci, est assez faible, ne fait pas de grandes prestations sur le terrain. Et il fallait montrer quelque chose, mais ils ont montré pendant 20 minutes, mais c'était déjà trop tard en fait.
Le PSG fait son meilleur match de la saison, très clairement. C'était, je pense pour moi, le match du titre, parce que psychologiquement, derrière les Lyonnais et les Lillois qui ont perdu à domicile, ils ont vu que le PSG était là, qu'on est à la 30e journée, c'est là que le championnat se gagne. Et mis à part Monaco, je ne vois pas quelle équipe est dans une dynamique comme le PSG. Maintenant, l'équipe lyonnaise, j'ai trouvé très décevante. Le choix de Rudy Garcia de mettre Disiglio et pas Dubois, je trouvais ça limite. On a vu que ça n'avait pas fonctionné. L'absence d'Aouar aussi a pesé. Lyon s'est comporté comme une petite équipe, selon moi, qui n'a pas eu l'ambition de gagner potentiellement ce titre. Et ça s'est vu.
Ouais. Achille, ça le fait sourire. Ouais, alors justement, les Lyonnais, les Parisiens.
Je suis absolument pas d'accord. Si Lyon a parfaitement bien préparé cette rencontre. C'est juste que Rudy Garcia a montré ses limites, tout simplement face à un Pochettino qui a parfaitement anticipé la tactique mise en place par Rudy Garcia, c'est-à-dire Rudy Garcia a cherché à contenir au maximum l'axe du terrain, et il s'avère que la composition d'équipe que le PSG a mis en place, c'est une équipe qui est prête, très forte défensivement, avec un pressing extrêmement haut, et des contres, derrière qui suivent. Il s'est fait avoir tout simplement, et je pense que le PSG a remis l'église au milieu du village. Je pense que
il était temps, non ?
Beaucoup ont parlé, ont remis en cause effectivement l'hégémonie du Paris Saint-Germain, mais Lyon n'a pas existé, pas parce que Lyon est mauvais, c'est pas vrai. C'est
Paris
parce qu'il y a une masterclass du Paris Saint-Germain, c'est tout.
Ah, c'est vrai que Paris a fait un très bon match.
Allez, Marie.
Alors moi je mettrais juste un petit bémol. On est d'accord que Paris a été bien au-dessus de Lyon, et ça. C'est vrai que c'était surprenant, surtout au milieu où Lyon avait vraiment montré de belles choses ces derniers temps et ils se sont fait manger. Moi, je dirais juste, attendons avant d'attribuer le titre au PSG, même si je pense qu'ils vont le gagner, parce que finalement, ils font tellement le yo-yo ces derniers temps. Il va y avoir des matchs un peu particuliers, il va y avoir des matchs entrecoupés de la Ligue des Champions, on espère que le PSG va aller très loin, mais le match piège par excellence à Strasbourg, entre deux matchs contre le Bayern, c'est typiquement le genre de match où ils peuvent en tout cas laisser des points. S'ils devaient passer le Bayern, il y aura encore un match entre deux matchs de Ligue des Champions. Donc, ils sont pas assez solides, moi je trouve, sur le fond, pour être sûr d'eux. Et après, il suffit qu'il y ait une équipe, et comme Lille ou Monaco, même si Lille est moins bien, n'ont plus que ça à jouer. Ils peuvent très bien gagner les 8 derniers matchs et mettre la pression sur le PSG. C'est toujours envisageable.
Tu penses vraiment que Lille ou Lyon va gagner tous ces matchs?
Non, j'ai pas dit Lyon. J'ai parlé de Monaco.
Monaco.
Moi, j'ai du mal à y croire. Je te dis juste que c'est possible. Oui, donc non, mais le titre va pas se jouer à 10 points. En tout cas, moi je crois, en revanche, je pense que Monaco ou Lille vont pas gagner tous leurs matchs, mais je pense que le PSG non plus.
Ah oui, mais c'est ça. Mais sachant que le PSG, en fait, le titre dépend que de lui-même. S'ils font des bonnes prestations, bah là ils vont jouer contre Lille. Et s'ils font la même prestation que contre Lyon, ils vont s'imposer si tout va bien. Donc à ce niveau-là, Lille, même Lyon, ils vont rien faire. Ces temps-ci, ils font pas de bons résultats. Ils font toujours des faux pas contre des petites équipes.
Comme le PSG.
Comme le PSG, bien sûr. Mais le PSG, quand il y a des moments clés, ils savent faire la différence.
La différence entre le PSG et ces équipes-là, c'est que le PSG a l'expérience et l'habitude de gagner. Les autres sont un peu surprises d'arriver là et commencent à montrer leurs limites dans le dernier.
Non, mais on est d'accord que le PSG.
Mais la finale du championnat. Mais je dirais, on parle du PSG, on parle de tout, mais aujourd'hui, il y a un joueur qui est exceptionnel. Ça fait j'ai beaucoup de respect pour ce joueur, c'est Kylian Mbappé. On avait douté de lui avant la Ligue des Champions contre le Barcelone. Ouais, il a rien prouvé, nanana. Et tout ce qui est presse média, tout ce qui est presse, on a essayé de le contrer. Et aujourd'hui, tu prends un mec comme Kylian Mbappé ou quand tu vois même Kimpembe, tu sens que c'est le potentiel en France. La qualité elle est aujourd'hui, c'est des grosses pièces maîtresses du football.
Bon, alors sur Mbappé, je te rejoins, mais pas sur Kimpembe.
Mais en même temps,
c'est alors là c'est ouais. On a des réactions en plus.
Quand on voit tu fais part des jeunes français, mais quand t'as un vrai coach qui a une vraie expérience avec une vraie philosophie, ben forcément ces jeunes-là ils éclosent. Et on voit effectivement les différences.
Non, mais
on a pu voir.
Je suis d'accord avec toi. Achille, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il a raison, Achille. Quand tu regardes le talent du joueur et t'as la qualité du coach, parce que bon, après, quand j'annonce la victoire du PSG à 3-1, je sais à qui j'ai affaire au niveau du coach Pochettino. Au niveau du pressing très haut, c'est facile. Aujourd'hui, les équipes en France, ça joue vachement défensif, ça joue en contre. Pochettino, il perd pas de temps.
C'était quand même Pochettino qui a entraîné le PSG quand ils ont fait un match retour très délicat contre le Barça. Ils ont perdu contre Nantes, c'est pas un magicien non plus, c'est un très bon coach. Ouais. Le PSG n'est pas encore, pour moi, une équipe ultra régulière. Donc ils peuvent lécher des points.
Jusqu'à la fin de cette saison, le PSG sera pas une équipe régulière.
Mais c'est pour ça. Mais bien sûr,
on peut pas porter de jugement en fait.
Mais c'est pour ça qu'ils peuvent perdre le titre.
Le coach est là depuis 2 mois. Sauf que, à la seule différence, le PSG ne perdra pas le titre. Le PSG va faire sans faute jusqu'à cette fin de saison. Tout simplement.
Voilà, parce c'est annoncé par la
c'est les compétiteurs, là.
Bien sûr. On a pas mal de réactions, Boula. Justement, il n'est pas d'accord avec toi, c'est Yacine. Lyon a très bien débuté. PSG a marqué sur des contres, Achille. Garcia, en faisant rentrer. Tu me laisses parler, Vignes, qu'est-ce qui t'arrive? Slimani, et le match a donc basculé. Fala est tout à fait d'accord avec toi. Justement, il rejoint et dit, bon, toi, Vignesh, tu es un peu dans, vous allez rien faire, messieurs, dames. Voilà. Ça, c'est pour le Paris Saint-Germain, selon tes dires. Et aussi, on a quand même, Abdel qui nous dit, Paris, c'est pas faire la différence pour l'instant. C'est le premier match qu'il gagne contre le top 4, Louis-Marie.
Oui, c'est vrai que c'est le premier match qu'il gagne, contre le top 4. Néanmoins, la configuration fait qu'aujourd'hui le PSG récupère l'intégralité de son effectif. Les joueurs commencent à avoir un niveau de forme plus ou moins
respectable.
Pas respectable, mais optimal. Et tout le monde a à peu près le même niveau de forme. Et quand on voit justement la gestion d'un Neymar, tout le monde se disait oui, bon, c'est le match de Lyon, il faut que Neymar y joue, etc. On a bien vu que sans Neymar, le PSG s'est imposé et que même si effectivement Rudy Garcia a corrigé son erreur. Malheureusement, un peu tard, à la suite de la sortie de Kylian Mbappé, l'entrée de Neymar, il a fait rentrer Slimani. On a pu voir effectivement qu'il a pu rectifier un petit peu le tir et que bon, Lyon, par concours de circonstances, a marqué des buts. Néanmoins, le Paris Saint-Germain est prêt.
Ils sont prêts, mais comment ils vont aller jusqu'à là?
On parle de Lyon, on parle pas du Bayern Munich. Le PSG n'avait pas besoin de Neymar pour battre Lyon. On parle d'une équipe qui est quand même très en difficulté sur les derniers matchs, qui soit gagne très difficilement, soit font des matchs nuls.
À entendre tout le monde,
on n'a quand même pas pensé que le PSG
quand tu gagnes 4-0, je veux dire, sans Neymar, tu vois vraiment le potentiel qualité.
Non, mais le potentiel du, lié,
le potentiel qualité des joueurs. Et quand tu vois qu'un mec comme quand tu vois un mec comme Verratti,
ouais,
que je regarde aujourd'hui, il temporise moins, il joue plus au ballon, il joue un peu plus vite, et ça, c'est la touche de Pochettino.
Non, mais il va falloir voir aussi, parce alors que Frédéric nous parlait du match
contre
le Bayern.
Des auditrices,
il va falloir nous dire, il va falloir voir comment le PSG réagit. Imaginons que ça se passe mal contre le Bayern, ce qui est quand même envisageable.
Oui,
comment
sûr.
Il s'en remettrait si demain ils prennent une valise contre le Bayern, ce que je ne crois pas qu'il va arriver, attention. Hein.
Ouais.
Mais est-ce que ce groupe est suffisamment solide se remettre d'une éventuelle défaite? Moi, je ne sais pas, vu que l'objectif c'est la Ligue des Champions. Si ça devait s'arrêter dans des conditions un petit peu difficiles, est-ce que ce groupe aura les ressources pour faire, comme dit Achille, un sans faute jusqu'à la fin du championnat? Moi, j'ai du mal à y croire.
Allez, Achille.
C'est une mentalité typiquement française qui a.
On est français, Achille. On est français, Achille, quand même.
Et toi aussi. Mais c'est à chier. En fait, je comprends pas aussi. Comment on peut systématiquement remettre en cause les équipes françaises qui ont un effectif. Il est quand même relativement pléthorique. Il faut avoir confiance.
Ouais.
Ils sont champions.
Comment tu
penses?
Il faut avoir confiance.
Ils sont champions en titre.
Pochettino.
Jusqu'au bout, jusqu'à preuve du contraire. À chaque fois qu'ils ont été dos au mur, ils ont prouvé. Ils ont prouvé.
Enfin, il n'empêche que pour ça, ils n'ont pas de temps en avance. Hein.
Donc,
et la semaine dernière.
Ça, alors, par rapport à ça, ils
justement.
Ont rattrapé le retard
ouais.
qu'ils avaient sur Lille. Là, dans deux semaines, ils vont rencontrer Lille.
Bon, on verra.
Ils vont leur mettre une fessée.
Alors,
moi je vous le dis, ils vont mettre une fessée à Lille pour montrer la domination.
C'est ça.
D'ailleurs, je tiens juste quand même à rappeler lors de la phase aller, Lille n'a pas vu le ballon. Hein. Même s'il y a eu 0-0,
c'est
Lille
assez...
est très,
est-ce
très,
que ce
très
n'est
heureux.
Pas logique
très,
que le PSG batte ces équipes-là? Tu as vu l'effectif du PSG comparé à l'effectif de Lille?
Après, faut pas.
C'est normal que le PSG batte Lille.
Cette mentalité, attends systématiquement à remettre en cause.
Dénigrer.
Il n'y a pas ceci.
Le club français. Après, on parle.
La question. Le Paris Saint-Germain.
C'est l'exigence du haut niveau.
Après, on parle de Paris.
On critique les joueurs.
Il y a un joueur qui a manqué à Lyon. Donc, faut pas oublier qu'il a fait une grosse saison l'année dernière. C'est Aouar.
Et cette année,
on le met un petit peu de côté, on le met remplaçant. La preuve, dans sa tête, il est pas bien. Et aujourd'hui, la clé des ballons, des passes décisives, c'est le côté Aouar qui manque.
Après, c'est pas remettre en question systématiquement, c'est juste s'interroger. Moi, je soulève des questions, notamment sur une potentielle réaction. Après, moi, je dis juste que c'est bien beau de dire que le PSG est extraordinaire, ce que j'ai pas dit que tu disais, mais il y a à peine une semaine, le PSG se prenait les pieds dans le tapis à domicile face à Nantes. Donc, ils peuvent tout à fait mettre une correction à Lille et perdre la semaine
prochaine. Merci, Louis-Marie et l'équipe de Tamsport. On se retrouve dès la première pause avec Émilie Ross, notre invité ce soir.
Tamsport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h. Tamsport. Avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en live jusqu'à 20h. On est en compagnie de notre consultante Frédéric, Louis-Marie, de Vignesh, Boula et Achille. Et justement, on a une info assez incroyable. Absent de la liste du Cameroun, Eric Choupo-Moting aurait bien dû être présent. Il n'a jamais reçu cette fameuse convocation envoyée par mail. La raison, la fédération camerounaise s'est envoyée le mail à elle-même. Par erreur, il n'a donc jamais reçu ce mail, selon nos confrères The Bild. Ouais, un petit mot.
Le couac, ça arrive quelquefois.
Ça arrive, c'est fou. J'imagine, Boula.
Mais j'arrive pas à comprendre que la fédération, que lui, il a pas reçu le mail. Mais la fédération envoie, avant d'envoyer le mail au joueur, faudrait qu'il envoie déjà, la fédération, faudrait qu'il l'envoie au club.
Ouais.
C'est le club qui reçoit la convocation. Voilà. Et c'est le club qui doit donner la convocation au joueur. Alors je comprends pas au niveau pourquoi on parle du mail.
Ouais. Allez, on va s'attarder sur notre invité, Boula, de la soirée.
Time Sport.
On est en compagnie d'Émilie Ross, justement, on le rappelle, Émilie Ross qui fait partie de cette fameuse agence marketing et communication qui est Uniteam, et aussi fameuse créatrice, de ce hashtag Meuf de foot. Bonsoir Émilie, comment allez-vous?
Bonsoir l'équipe, comment ça va?
Ça va très très bien Émilie, ravi de vous avoir avec nous dans cette émission qui est Time Sport pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. On va s'attarder avec vous, sur des questions, assez précises, notamment, on va parler du Paris Saint-Germain et aussi de ce fameux documentaire d'hier, fait et mis en avant aussi par notre consoeur Marie Portolano. Mais on aimerait vous poser une première question. On a pas mal d'auditeurs de Beurre FM qui nous ont demandé avant cette émission pourquoi et comment vous est arrivé ce fameux hashtag Meuf de foot.
Ah, la vraie question. En fait, à la base, il faut savoir que j'adore live-tweeter, donc je suis Twitter et je live-tweet des matchs de foot. voilà, Ligue 1, Ligue 2, D1, les matchs nationaux, etc. J'adore le foot et j'adore le partager sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a plusieurs années, tu sais, on mettait un peu des hashtags sur Twitter, un peu comme on faisait. Ouais. Et comme j'étais une meuf qui parlait de foot, je me suis dit, meuf de foot. Tu vois, le truc bien réfléchi.
C'est ça.
Quoi. et en fait, il s'avère que je me suis aperçue qu'il y avait plusieurs meufs qui regardaient le foot en même temps que moi et qu'il y avait une vraie communauté possible. Et en fait, il y a une communauté qui s'est créée derrière ce hashtag meuf de foot. Et aujourd'hui, ça réunit, mais aussi bien, tu sais, des femmes, des hommes, des enfants, etc. C'est vraiment un hashtag collaboratif, à mort.
Ouais. Ah justement, on a une première réaction, Émilie, avec notre consultante Frédéric. On t'écoute, Frédéric.
Oui, bonsoir Émilie. J'ai vu que tu avais déposé la marque Meuf de Foot et que tu vendais des t-shirts. Excuse-moi. Est-ce que c'est lucratif ce business?
Alors, je vais vous dire la vérité parce qu'on va se parler franchement.
Ouais.
Non, ce n'est pas lucratif, mais le pire c'est que je ne l'ai pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai lancé le hashtag, j'ai vite vu qu'il pouvait être pris à mauvaise escient. Tu sais, le côté femme dans le foot, etc. Tu sais pas comment ça peut tourner. Et en fait, comme je voulais être sûre qu'il reste bienveillant, un bon hashtag, en fait, si tu veux vraiment des gens qui aiment le foot et c'est tout, et du coup, j'ai déposé la marque pour être sûre qu'on ne puisse pas l'utiliser à mauvais escient. Et en fait, quand on dépose une marque, on est obligé après d'en faire une production concrète. Du coup, ce que j'ai fait, j'en ai fait des t-shirts en disant si ça marche pas. Et en même temps, si vous voulez, les t-shirts qui sont... On les produit à la commande, donc il n'y a pas de stock, qui sont éco-responsables, etc. Donc en fait, en soi, ça ne coûtait rien. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Et du coup, aujourd'hui, c'est une marque de t-shirts et j'ai de la chance parce que la communauté l'a suivi. Et oui, c'est une marque qui est portée. Mais par contre, concrètement, je vous déconseille d'investir dans le textile.
Ouais. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà, ça au moins c'est dit. Tu vois, Viknesh, il ne faut pas dans le textile.
Non.
Et justement, on vous connaît, amoureuse du football. Quel club vous fait rêver en France ou même à travers le vieux continent, à travers l'Europe, Émilie? Le Paris Saint-Germain?
Oui, je suis partie du Paris Saint-Germain. Donc c'est aussi un peu facile. Hein.
Ouais.
Enfin, c'est facile par rapport aux résultats. Mais en même temps, on vit des années très compliquées. C'est-à-dire qu'on est dans la bipolarité tout le temps. Tu les aimes, tu les détestes, tu les aimes, tu les détestes, tu les aimes, tu les détestes.
C'est ça.
Donc,
ça a toujours été un peu le cas avec le PSG.
Facile.
Moi, je t'aime pas, moi non plus.
Mais exactement. C'est la pire relation de ma vie.
depuis combien d'années?
Ça va faire une quinzaine d'années. En fait, si vous voulez, moi, à la base, je suivais vraiment le foot amateur.
Ouais.
Le foot professionnel, j'y suis venue très tardivement. Moi, j'allais voir surtout mes potes jouer à Creil, à Chambly, à Chantilly. Enfin, voilà, moi, je suis de Creil à la base.
Voilà, c'est ça. Ça fait plaisir à notre réalisateur, là. Ouais.
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Voilà. Allez, Alanis. C'est ça.
Voilà.
Ouais.
Mais en fait, moi, je viens vraiment du foot amateur et en fait, j'ai découvert, on va dire, le football professionnel sur le tard. Et du coup, depuis que je vis à Paris, on va dire que forcément, entre guillemets, j'ai suivi le Paris Saint-Germain. Mais en fait, je regarde vraiment, dites-vous, toute la Ligue 1 et beaucoup, beaucoup de matchs de Ligue 2 et de D1 aussi, quoi. Donc voilà, je suis supportrice de cœur, mais j'aime surtout le ballon avant le football.
Alors, Boula, je voulais, réaction avec Émilie.
Moi, je voulais te demander, est-ce que Paris t'a sollicité pour produire un peu ce que t'as créé? PSG.
Eh ben non. Et alors écoutez, parce que j'ai une super histoire là-dessus. Donc en fait, les t-shirts meuf de foot, ou en tout cas le hashtag meuf de foot, fonctionne bien sur les supportrices. Et en fait, c'est l'AS Monaco qui m'a installé en disant on a des supportrices monégasques, on sait qu'elles utilisent beaucoup le hashtag. Et du coup, ils ont créé avec Capac et leur équipementier une collection spéciale meuf de foot qui a été vendue dans les boutiques à Monaco. Elle était ouf.
Et
ça paraît ouf, en fait.
Ah, ça c'est cool.
Est-ce que t'as quelqu'un qui te gère un peu tout ce qui est image meuf de foot? Parce que est-ce que tu veux le créer en Angleterre?
Mais alors comment je le traduis? Parce que moi le truc.
Ah on a Boula, Émilie. Boula, tu lui donnes une idée.
Parce que bon, je vois le merchandising en Angleterre, ça marche très très bien. Et puis si tu lances, je sais pas, une idée comme ça, que ça soit en Angleterre ou aux États-Unis. Ça va plus vite que la France, au niveau en termes business, je te parle.
Et en même temps, comme en fait, j'ai pas créé ce hashtag pour en faire un vrai business, si vous voulez, je me suis un peu laissée, un peu dépassée, entre guillemets, et donc j'ai fait que des trucs dans des zones de confort, avec des gens de confiance, de la bienveillance, etc. Mais j'ai aucune stratégie business derrière tout ça, en fait. Je veux vraiment juste réunir les gens, et ce qui me rapporte le plus, c'est que quand moi, je fais des OP avec meuf de foot, vous savez, des trucs d'influence ou quoi que ce soit, l'argent que je gagne, je le réinvestis dans le sport amateur féminin. Et ma grande fierté, c'est d'être sponsor maillot d'une équipe à Aix-en-Provence. Ça, c'est ma fierté, en fait.
Ah ben, ça, c'est cool,
et
vraiment.
Et je voulais te poser une dernière question. Ton petit coco familial.
Ouais.
Oui.
Comment, je veux dire...
Ouais, mais...
Ah non, est-ce, que, est-ce qu'il y a une grande boule
Est-ce qu'il y a une boule quand même que,
entre le
quand
foot...
Même, on a, c'est cool
entre,
mais boule, mais
entre
même,
meuf de boule foot et le petit cocon familial, est-ce que tu arrives à gérer ça?
Ça fait sourire tout le monde, là, dans ce... mais même les auditeurs, à mon avis, non. Mais elle est pas obligée d'y répondre, hein.
Mais où il veut en venir
Je veux en venir parce que tu dois envoyer pas mal d'énergie au niveau du foot. Est-ce que t'as, derrière ça, t'as ce petit cocon précieux, non? Je sais pas.
Ouais. Mais moi, la famille et les amis, c'est la base. Par contre, c'est vrai que le football prend beaucoup de place dans la vie.
C'est pour ça que je te pose cette question.
Est-ce que tu aurais posé la même question à un homme, Boula?
Bah oui, mais c'est ça. Sûr qu'il aurait posé la même question parce que quand on aime le foot, ça prend une place hyper importante.
Merci, voilà.
C'est vrai.
Merci, Émilie, parce que ici, ils s'éclatent de rire, mais ils savent pas que... T'as le foot, mais il y a les valeurs de famille. Hein.
On est bien d'accord, Boula.
C'est ça. Et il y a tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que tu vois, quand t'as vécu un mauvais match, le lendemain matin, bah, c'est chaud, en fait. T'es pas de bonne humeur. Et du coup, bah, non, parce que la vie, elle doit continuer. Et t'as, voilà, t'as la vie familiale, t'as les amis. Mais c'est pour ça que c'est bien.
Merci pour la réponse.
Mais bien sûr. Et pour toutes ces réponses avec Émilie Rose, justement. Alors, on a des types dédicaces. Alors, de Saïd, qui passe le salam à Émilie, carrément. Oui. On a aussi Sarah, voilà, qui nous dit « Big up à Émilie, des femmes fortes comme elle. Il en faut beaucoup plus sur les plateaux TV. » Oui, Achille, réaction.
Ok, mais d'où vient cet amour du foot? Est-ce que c'est une transmission par un membre de la famille ou bien tout simplement un événement marquant ou un match marquant? Ou un personnage en particulier qui t'a fait aimer le foot?
Mais pas du tout, parce que moi, il faut savoir que mon père n'aime pas le foot. Donc en fait, moi, j'ai
ça aurait pu être ta maman,
mon petit frère. Mais ouais, mais ma mère, elle calculait pas, en fait, si tu veux. Puis c'est vieille génération. Donc en fait, le daron regarde pas le foot, la daronne regarde pas le foot. En tout cas, chez moi, ça se passait comme ça. Sauf qu'en fait, bah, d'où je viens, je suis de Creil, et en fait, le foot, on avait que ça à faire. Et que mes seules sorties, mon père m'autorisait à aller voir mes potes jouer au foot. Donc du coup, j'étais tout le temps à côté des terrains de foot et moi j'ai vraiment vécu le foot par le foot amateur. Donc j'ai suivi Creil, j'ai suivi Chambly, j'ai suivi Chantilly. Et en fait, ça vient vraiment de là où après tu développes un truc et puis tu découvres le football professionnel. Et puis j'ai la chance d'avoir vécu 98. Et donc là, à partir de là, tu te dis, ah ouais, il se passe quelque chose en fait. Et moi, ce que j'aime dans le foot, c'est le social, le sociétal et toutes les valeurs qu'il y a autour.
Ok. Merci pour cette
question. Oui, Marie.
C'est intéressant que tu abordes ça, Émilie, justement. Tu parles de sociétal. Bah, quel regard tu portes aujourd'hui par rapport à tout ce dont on entend, notamment le documentaire justement de Marie Bartolano, Je ne suis pas une salope, sur la place des femmes justement dans les médias sportifs et principalement dans le foot. Quel regard tu as là-dessus, toi?
Écoutez, moi, hier, j'ai regardé le documentaire. Je vous dis la vérité, j'ai pleuré.
Ouais.
J'ai eu la nausée. Parce qu'en fait, j'ai été prise d'une colère profonde parce que tous ces témoignages, c'est blessant. C'est parce que tu te dis que ça veut dire que ça se résume à ça. Enfin, en fait, c'est-à-dire que quand tu es une femme qui aime le foot, on te résume à ça. C'est terrible, en fait. Tu vois, si tu fais le raccourci, c'est terrible. Et en même temps, il faut en parler. Et moi, ce qui m'a fait le plus mal, je pense, c'est de dire tous les gens qui savaient qu'ils n'ont rien dit. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je viens d'un endroit où, en fait, quelqu'un t'emmerde, quelqu'un te fait du mal, les autres vont te défendre. Et ça, c'est ce que j'ai... Du coup, ça veut dire que ces femmes-là, elles n'ont pas été défendues. Elles n'ont pas été écoutées. Et ça, c'est pas normal. On est en 2021 et on fait un sujet comme ça. C'est flippant, en fait.
Ouais.
Donc ouais, ça m'a mis beaucoup de rage parce qu'effectivement, non, c'est pas mes valeurs, c'est pas ce qu'on m'a transmis. Et surtout que moi, j'ai de la chance de venir du football par les hommes, en fait.
Ouais.
C'est mes potes, c'est les hommes qui sont autour de moi qui m'ont amené au football et je n'ai jamais été jugée là-dessus. Alors, je vous dirais pas que sur les réseaux, je me suis pas pris des réflexions, on retourne en cuisine, etc. Mais je suis une quiche en cuisine. Donc, les gars, vaut mieux que je parle de foot.
Ouais.
Que cuisine. Mais en fait, j'ai vraiment de la chance, je pense, mais parce que j'ai été entourée d'hommes bienveillants. Et que mine de rien, tu as besoin en fait d'avoir un entourage bienveillant qui te permette de bien avancer.
On termine avec Frédéric, notre consultant.
Est-ce que tu penses que la diffusion de ce documentaire va peut-être permettre de faire évoluer les mentalités et d'ouvrir les yeux aux gens?
Frédéric, je vous le dis franchement, et pardon, je me permets de vous tutoyer, hein, mais il faut. En fait, j'espère juste que ce documentaire va permettre une micro-révolution. Tu vois, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que moi, je veux que des petites filles, que des adolescentes, que des étudiantes, elles se posent pas la question en disant « Ah non, je veux pas travailler dans le foot ou dans les médias parce que ça craint, en fait. » Non, non. Ouais. Non, non, on va y aller, on est ensemble. Et vous allez voir qu'il y a des tas de choses à faire. Il y a de la place pour tout le monde. Et il faut juste dépoussiérer les vieux meubles dégueulasses qui restent.
Merci, Émilie Rose, d'avoir été avec
Pierre
nous.
Pierre Ménez.
Wow. Ouais, merci Émilie. Merci, oui, mais bien sûr, vous faites bien. Vous faites si bien, j'aime bien taquiner Boula ainsi que toute l'équipe de Tam Sport. Vous remercie d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. À une prochaine, on l'espère, dans ce studio.
Mais je vous écoute en plus. Moi, j'écoute Beurre FM. Vous pouvez pas savoir comment je suis saucée d'être là ce soir.
Ah oui, ah ben c'est cool. Ah ben c'est cool,
vive
vraiment.
Vive les cultures, Émilie.
Ah ben bien sûr.
Vive nous.
Voilà, c'est ça. Vivrons ensemble, vive les cultures.
Mais bien sûr, tu fais bien
Exactement.
De le dire. Et elle est dans cela, Émilie. Une magnifique personne. Nous, on va s'attarder cette fois-ci, aller sur un autre sujet totalement différent que le du football, c'est le ski.
Time Sport, la victoire.
Eh oui, on a parlé de Creil avec lui et on sait plus le retrouver. C'est notre réalisateur Yanis, c'est justement vainqueur de cette fameuse Coupe du Monde, Alexis Peintureau, et le plus grand, le grand skieur français de tous les temps. Eh oui, le Savoyard a remporté ce samedi le classement général de cette fameuse Coupe du Monde. Oh, tu hoches de la tête, mais quand même, il faut le dire. Oui, c'est le plus grand, Louis-Marie.
Ah, j'aime pas comparer les époques, parce comparer à Killy, ouais. Qui à 26 ans a pris sa retraite,
il était pas mal.
Titre olympique. C'est incomparable. Et puis le comparer à Alphand, qui dans d'autres disciplines, parce qu'il était sur la vitesse et moins sur la technique, était aussi un grand champion. Moi, la seule question, je me dis juste qu'aujourd'hui, c'est un immense champion, pas besoin de le comparer aux autres. Un des plus grands skieurs français tous les temps, c'est une évidence. Moi, je me dis surtout que je crois qu'il va être libéré d'un poids maintenant. Et que peut-être que le plus beau est à venir pour lui. Parce qu'à 30 ans qu'il les a eu ce week-end, c'est jeune pour un skieur. Ouais. Les skieurs vont facilement à 33, 34, 35, assez régulièrement. Donc je pense qu'il a encore 3-4 belles années pour faire encore mieux. Et libéré de ce poids, parce qu'il a quand même couru après pendant 10 ans, il ne faut pas oublier qu'il est tombé sur un extraterrestre, qu'il est tombé sur le plus grand skieur de tous les temps, qui a gagné 8 fois le classement d'affilée, en battant des records de points tous les ans, qui était Marcel Hirscher.
Ouais.
Et que derrière ce monstre-là, c'était le plus régulier. Maintenant que il a, justement, il s'est décomplexé en gagnant ce titre qu'il devait gagner. Il avait une pression énorme sur les épaules cette année. C'était pour lui et pour personne d'autre. Maintenant qu'il l'a fait, il va skier relâché. Et on a vu ce que ça donnait dimanche, hein. Relâché, il a quasiment gagné le slalom, ce qui n'est pas sa plus grande spécialité.
Ouais.
Tout en relâchement, je pense que maintenant, peut-être le plus beau est à venir, et notamment les JO l'an prochain.
Une émotion incroyable aussi, en parlant de la fédération et sa DTN. Ça fait plaisir en tout cas.
Bah, c'est énorme pour le ski français. On ne se rend pas compte à quel point c'est difficile de gagner et de durer dans le ski, parce que c'est un sport qui est extrêmement traumatique, où les blessures sont souvent graves et durent longtemps. Il n'est pas rare qu'un skieur soit éloigné 1-2 ans des pistes pour des ruptures des ligaments, ce genre de choses. Il faut pas oublier que ces mecs-là, ils mettent quasiment leur santé en jeu à chaque départ.
Ouais.
Donc, finalement, durer au haut niveau, mettre l'intensité dans l'entraînement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et voir un champion comme ça, qui met autant de temps à toucher son Graal, parce que 30 ans, mine de rien, ça fait, encore une fois, ça fait 10 ans qu'il l'attend. Tout le ski français l'attendait. Et ça aurait été une énorme déception pour les skis français qu'ils ne le fassent pas. Maintenant, ça va détendre tout le monde. Et pour ça, moi, je crois vraiment que le ski masculin français, parce que bon, les filles sont un petit peu à la traîne en ce moment, va être extraordinaire l'an prochain.
Merci Louis-Marie. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On reviendra avec notre tour d'Europe concernant le ballon rond et aussi, allez, un petit mot concernant cette fois-ci l'Ovalie et le 15 de France.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Ah, et pas que. On a aussi Jouba qui nous écoute depuis La Réunion. Ah, Jouba, et qui nous manque, ce Jouba. Eh oui, Jouba Taleb, il nous manque beaucoup. Eh oui, Louis-Marie, c'est du high level avec Achille, sans oublier Frédéric, Viknesh et Boula avec moi. Alors, on va s'attarder, si on peut, avec Yanis, sur le tournoi des Six Nations.
Time Sport. Le duel.
Eh oui, renversant, époustouflant. Eh oui, le 15 de France de Fabien Galtier, justement. Pas mal. Vraiment.
Plus que pas mal, c'était kiffant.
Incroyable.
C'était kiffant. Ça fait combien d'années qu'on
Une
se,
bonne
qu'on
génération. Ça fait longtemps,
l'équipe
Marie.
De France qui nous sort des purges année après année. Faut reconnaître que depuis un an,
on y est là.
Alors là, si on doit analyser le match, on se rend compte qu'on doit jamais le gagner, que le Pays de Galles mérite trois fois plus que nous, qu'ils nous ont marché dessus pendant 60 minutes. Mal arrivée, cette équipe, elle a du cœur, elle a du caractère, elle a des couilles. Faut dire ce qui est, et elle va jusqu'au bout. Et ce renversement de situation dans les trois dernières minutes, il est énorme. Alors après, il est aidé par l'arbitrage, mais enfin, l'arbitrage, c'était très particulier sur ce match. Mais en tout cas, ils ont vraiment démontré qu'ils avaient une âme, qu'ils avaient un esprit collectif extraordinaire. Et je pense qu'ils vont mettre une énorme rouste à l'Écosse vendredi pour gagner le tournoi.
On l'espère. Un bel accent français, l'arbitre en tout cas. Hein.
Je pense que l'équipe de France a toutes ses chances. Ils ont montré une force de caractère. Tout le monde a eu l'émotion. Et je pense qu'il y a, de quoi faire. Il y a du potentiel dans cette équipe. Beaucoup de jeunes. Elle s'est complètement reconstruite. Il y a eu la polémique, le Covid, etc., la gestion. Mais même avec ça, cette équipe, elle a gardé
son
sang-froid, elle a tenu et elle a bien représenté la France.
Et juste, une petite chose, juste une petite chose pour compléter ce que dit Frédéric.
Alors,
c'est qu'effectivement, on parle de caractère, mais il ne faut pas oublier qu'on a une génération absolument extraordinaire. Ce qui fait la différence, c'est qu'on a trois joueurs par poste, très jeunes, qui ont beaucoup, beaucoup de talent. Quand il y en a un qui sort, ça le remplace. On l'a bien vu, Jalibert sort sur blessure, Ntamack est là. Jalibert ne sera pas là, mais Carbonel sera là aussi. À tous les postes, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent avec une génération qui est double championne du monde junior. Et ça fera la différence. Et 2023, c'est pour nous.
Alors, Rachid,
c'est quand même un assez intéressant de voir ce chauvinisme quand il s'agit de l'équipe de France.
Ben oui, Rachid,
c'est très important et de voir cet optimisme. Mais par contre, quand il s'agit de parler des clubs français,
là, il n'y a pas Tu fais bien d'en parler.
C'est bien.
Ben oui,
Tout le monde a douté aussi à un moment de cette équipe de rugby. Il faut avoir le même regard quand cette équipe de rugby a été critiquée. Tu ne l'as pas noté. On peut pas parler de chauvinisme quand ils font un exploit pareil. On est obligé de les encenser.
Face au camp d'Achille ce soir.
J'ai beaucoup souligné.
C'est raisonnable en fait en France. Le problème, c'est jamais raisonnable. Ils gagnent, on est champion du monde direct en 2023. Ils perdent, on est dernier. Il y a pas un juste milieu. On peut pas faire de match.
On peut pas. C'est la magie du sport.
Et après, c'est aller et juger avec le temps, en fait. Ouais. Pas sur un match ou deux matchs.
On va parler du Barcelone, là. C'est promis. Avec Boula.
Time Sport, le mode pressing.
Renaissance d'Antoine Griezmann. Et oui, notre grisou national s'est illustré encore une fois avec le Barça ce dimanche soir contre la Real Sociedad. Achille 6-1. Et le Français, à quelques mois de l'Euro, nage plein bonheur. On l'espère, en tout cas, Boula. Vraiment. Oui. Allez, les Bleus.
Surtout le petit Dembélé. Hein.
Là, j'ai oublié. J'ai oublié Dembélé. Achille, quand même. Dembélé, oui.
Il a raison. Il a raison, mais néanmoins, avant même de parler de Dembélé,
Ousmane, ouais.
Même de Griezmann, je pense que Coman a eu cette intelligence de réussir à trouver alors, je dirais pas qu'il y ait une alchimie, mais trouver un
système. Beaucoup critiqué.
Voilà, trouver un système qui permet à la fois à Messi et à Griezmann de s'exprimer et très probablement de faire passer un palier à Ousmane Dembélé psychologiquement et même dans sa préparation. Donc j'ai envie de dire que la réussite des joueurs français offensifs du côté du FC Barcelone, je pense que c'est l'œuvre de Coman. Par contre, malheureusement, Samuel Umtiti, malheureusement pour lui, c'est un petit peu compliqué. Son retour est un peu compliqué, donc j'aimerais aussi qu'on sente un peu la patte Coman en ce qui concerne Samuel Umtiti, qui à mon sens ça reste quand même un gâchis quoi.
Depuis la Coupe du Monde, Umtiti c'est un gâchis. Griezmann. Depuis la Coupe du Monde, il y a des blessures, etc. Et après pour revenir à Griezmann, Griezmann Messi, c'est le duo qui est le plus décisif en Liga. Et Griezmann depuis le retour de Coman, enfin l'arrivée de Coman, il est épanoui. Il joue plutôt à son vrai poste, on va dire, en tant que faux numéro 9, même sur les côtés, etc. On sent qu'il est investi, il est plus efficace, il joue avec Messi, et surtout, moi, je soulignais l'arrivée de Dembélé. Depuis qu'il est plus blessé, Dembélé, il est extraordinaire. On sait très bien, on le savait, que c'est un très bon joueur technique qui pouvait être très bon et efficace dans les grands matchs. Et depuis qu'il est sur le terrain, il est très bon. Il est titulaire, il fait la différence, il est même apprécié par tout le monde. Donc, s'il continue comme ça, lui, il sera de retour pour l'Euro. Et Griezmann, Dembélé, et même Lemar qui est bon, et sans oublier Benzema, bien sûr, avec le Real Madrid. Les Français hybrides. Les Français.
Boula.
Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier sur Dembélé.
Alors, c'est quoi, Boula?
C'est la gestion, comment elle est faite aujourd'hui. Moussa, même, passe beaucoup de temps à Barcelone pour avoir une sacrée présence autour de Dembélé pour qu'il soit
Ça le sert.
Ouais,
vachement. Je voulais
l'organiser à vivre d'une façon comme un sportif de haut niveau.
C'était un petit peu le problème souvent, semblait être avec Dembélé.
C'est quoi?
Parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Maintenant, ça semble être derrière lui. On va espérer que ça dure parce que c'est quand même un sacré talent. Effectivement, il joue très bien en ce moment. Et ce que je trouve effectivement, c'est peut-être l'apport de Koeman dont parlait Achille. je trouve qu'il lève plus la tête. Avant, j'avais tendance à, je trouvais qu'il avait tendance à beaucoup dribbler et avoir du mal dans le dernier geste, notamment au niveau de la passe. Ça a l'air de s'améliorer. Maintenant, faut voir sur la durée. Mais c'est sûr que s'il il explose enfin comme il devrait exploser avec le potentiel qu'il a, ça serait encore une arme extraordinaire pour l'équipe de France.
Et une force aussi en plus, ouais. Ça je reviens avec Frédéric.
On termine avec CR7.
Qui doutait sur Coman au départ.
Je doute toujours, tu as vu l'élimination contre le PSG?
Oui mais c'est pas grave, c'est pas... le problème c'est que le PSG aujourd'hui c'est une machine par rapport à Barcelone. Après la gestion.
Le niveau par du contre, Barça sur le match aller.
Oui, mais le Barça, ils pouvaient pas gagner la Ligue des Champions automatiquement. Aujourd'hui, Coman,
se faire humilier de cette façon, Coman,
je pense pas.
Ça va mieux.
Paris s'est fait humilier, sur la remontada.
4-1 à la maison, quand même.
Moi, je pense que c'est pas humiliant.
C'est pas humiliant. L'image qu'ils ont donnée sur le match aller.
Quand tu tombes sur une machine, comme Paris, parce qu'il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que le potentiel qualité de Paris, c'est énorme. Maintenant, il manquait le chef d'orchestre pour jouer très haut au niveau offensif par rapport à la qualité des footballeurs. Et quand tu regardes même un mec comme Coman, qui inspire le football technique, il est plus proche de Dembélé pour l'emmener là-haut.
Coman, il y a du mieux. On voit qu'il fait du bien à cette équipe, qu'il combine mieux, et tu vois de la progression de la part de Dembélé. Tu les vois dans les grands matchs, je ne te parle pas que contre le PSG, dans les grands matchs contre des gros en Espagne, le Barça est souvent en difficulté. Donc, est-ce que on va me dire qu'il révolutionne cette équipe, etc. Je ne pense pas, je suis plus mitigé. Par contre, ce que Dembélé fait, on a vu un réel progrès. Là où je rejoins Louis-Marie, il va falloir voir sur le long terme, sur la régularité, parce que c'est ce qui lui manque un petit peu, mais je pense qu'il y a du potentiel. Et je suis un peu plus mitigé sur Griezmann, dont on parle de la renaissance un petit peu tous les mois. Ça va mieux, mais c'est pas non plus...
C'est pas à la hauteur du joueur.
C'est pas à la hauteur de ce qu'on attend
dans les qualités d'intrinsèque de Dembélé.
Ouais.
Au niveau ballon, au niveau football, il pue le football, Dembélé.
Il pue moins le football que Griezmann, je trouve, dans son expression collective.
Griezmann, il a joué. La chance qu'il a, c'est qu'il à l'Atlético de Madrid, il a joué avec une équipe qui est vachement tactique, défensif.
Je trouve qu'il sent mieux le jeu en termes collectifs qu'un Dembélé.
Mais Dembélé, il y a un mec qui met pas en ce moment.
Ouais.
Moi, je le mettrais au-dessus de Griezmann. C'est le petit Fekir qui joue au Betis de Séville.
Il est pas mal. Avec Séville. Ouais. Nabil Fekir. Nous, on rejoint l'Italie.
Time Sport.
Oui, après l'Espagne, c'est l'Italie et la Juventus, la vieille dame qui continue son naufrage. Et justement, Serie A face à Benevento. Que dire là aussi? CR7, il a été à dire hier soir, je crois, sur les réseaux sociaux notamment, que c'était une saison assez étrange, mais qui promet, face à ces folles rumeurs, de rester du côté de la vallée du Piémonte.
C'est un homme de parole. Après, quand on voit la physionomie du match face à Benevento, faut savoir que c'est une énormité d'Arthur. Voilà, qui fait une passe en retrait. On se pose la question pourquoi il fait ça. D'ailleurs, comme Mbappé, face à Nantes, il fait quasiment sensiblement la même erreur. Et derrière, Benevento, l'équipe dirigée par Inzaghi, punit la Juventus. Après aussi, ils ont manqué de chance. Ils ont eu un gardien qui a été du feu de Dieu, bien entendu. Du côté de Benevento, il y a eu énormément d'arrêts, il y a eu des poteaux, il y a eu une grosse pression de la Juventus. Donc, j'ai envie de dire, c'est un accident, mais manque de peau pour la Juventus. Si les accidents, ils se répètent un peu beaucoup. Et partant de là, on commence à se poser des questions. Alors, il y a des folles rumeurs qui disent que d'ici la prochaine journée, donc lors du derby face au Torino, la Juventus ne gagne pas, il est possible, bien entendu, de voir Andrea Pirlo qui soit licencié. J'ai bien dit, ce sont des rumeurs. Ouais. C'est absolument pas à en tenir compte, moi je pense.
Bien sûr, Achille.
Il faut laisser du temps. La Juventus va
être
qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions.
On l'espère, oui.
La saison prochaine, par contre, il n'aura pas le droit à l'erreur parce que, à l'heure actuelle, s'il faut virer Pirlo, c'est de l'argent qu'il faut lui donner, des indemnités de départ. Il faut savoir aussi qu'également, jusqu'à la mi-saison, la Juventus réglait encore le salaire de Mauricio Sarri. Les finances de la Juventus suite au Covid-19 ne sont pas si extensibles que ça, comme on pourrait voir.
Pas mal de clubs, Achille.
Comme d'autres clubs. Ouais. Donc je pense que prudence,
Et le mot.
Faut laisser le temps à comment dirais-je, ouais, à Andrea Pirlo, même si c'est vrai, bien, c'est extrêmement mal embarqué.
Allez rapidement.
Agnelli,
Louis Marie et Frédéric,
quand ils ont besoin de, quand ils ont pas d'argent, mais Agnelli, la famille Agnelli, c'est pas n'importe qui.
Ouais, mais
c'est une machine d'argent.
On parle du club aussi, on parle pas de finances.
Alors Vignesh, rapidement avant la fin de cette émission.
En fait, le problème c'est qu'il faut pas oublier que Pirlo, sa première saison, il a pas eu l'occasion d'entraîner avant, donc il faut se dire que c'est une saison de transition. Là, ça marche pas. Cristiano, ça paye pas, mine de rien. Il marque des buts, etc. Mais il perd des matchs. Il y a beaucoup d'accidents. Hein. Ah, ils sont pas loin. Ouais. Et la Juve, ils sont pas très loin du titre non plus. Donc c'est toujours jouable, mais ça va être très compliqué. Ouais, mais c'est jouable.
Avec
c'est jamais.
Après,
ça,
faut
contre le Napoli, etc. Après, donc, ça peut le faire.
Après, mais la Juve a beaucoup manqué de réussite cette saison.
C'est ça.
Ouais. Beaucoup. Matchs, et d'habitude, la Juve, c'était un peu sa signature, avoir de la réussite, être réaliste. Cette année, ils en ont manqué. On voit que finalement, ils étaient peut-être pas si forts que ça avant. Ils étaient très forts, mais c'était peut-être leur limite au niveau continental. Là, avec une saison où tout se goupille moins bien, tout va dans le mauvais sens.
Après, faut pas oublier, ils perdent en Ligue des Champions. Porto jouait à 10. Et après, faut pas oublier que quand tu dis ils ont joué à 10, moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, mais il était hors de forme, c'est Cristiano Ronaldo. Et je crois que même à un moment donné, il s'accroche avec Pirlo.
Il s'accroche avec Pirlo parce que. Il va falloir que la Juve fasse attention parce que l'Atalanta a 55 points, le Napoli derrière 53 points, la Juve 55, donc même la Champions League, c'est pas joué. Et le problème de Pirlo, c'est que.
Il faudrait pas que ça devienne une catastrophe industrielle.
Il faudrait quand même faire attention. Et le problème de Pirlo, c'est que dans les grands clubs, on ne te laisse pas le temps. On attend des résultats. Sauf ils ne vont pas attendre que Pirlo construise.
La seule
c'est
différence.
Pas Arsenal avec Arteta.
Alors, je suis d'accord avec ce raisonnement-là.
Alors, Achille.
À la Juventus, ce raisonnement-là ne tient pas pour la simple et bonne raison qu'ils ont fait venir Pirlo. Pirlo, à la
c'est
base, est censé prendre la Primavera, donc les U23. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à trouver d'entente avec Mauricio Sarri. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le font monter avec les A.
C'est pas prévu. Hein.
C'était absolument pas prévu. Donc, partant de là, et compte tenu de la situation et de la crise économique actuelle, virer Andrea Pirlo pour prendre qui et à quel tarif?
Non mais
donc moi je crois pas que
non mais en plus
on va partir sur un nouveau projet
sans même parler de Conte, voilà, effectivement qui sera un autre projet. La Juve, comme beaucoup de grands clubs européens, cette année c'est une année particulière. Le PSG est plus en difficulté qu'il ne l'a été vu qu'il a des concurrents. En Angleterre, on voit bien que Liverpool est en difficulté, le Barça, le Real, il y a beaucoup de grands clubs dans cette année post, enfin même pas vraiment post-Covid, je suis un peu optimiste. Cette année plein Covid encore.
Alors,
c'est compliqué pour tous les grands clubs. On voit bien que les niveaux se sont nivelés. Donc, ils en ont pâti aussi, comme les autres.
Des réactions, justement, cette fin d'émission de Maryse et Eric. Tout à fait d'accord sur CR7 avec toi, Achille et le football italien. Et sans oublier, Karima et aussi Nacera et Malik. Merci. Ça s'adresse à toi, ça, Louis-Marie. Merci pour la petite info concernant l'Ovalie et le 15 de France. Voilà. Un grand merci à Frédéric d'avoir été avec nous, à Boula, Louis-Marie, à Achille et encore une fois à toi, Victor. Rendez-vous dès demain à partir de 19h. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Café des Artistes et Mourad.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.